VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
18h temps universel, dans 10 minutes, Carrefour avec Eric Manirakiza, mais tout d'abord le journal. Crise au Mali, un djihadiste malien veut demander pardon pour les mausolées détruits à Tombouctou. Il est le premier accusé à vouloir plaider coupable depuis la création de la Cour pénale internationale. Maïli Segal.
Ahmad Al-Faki Al-Mahdi était le dirigeant du groupe djihadiste Ansar Dine à Tombouctou au moment des faits en 2012. Son avocat a affirmé que ce Touareg malien veut être honnête avec lui-même et admettre les actes qu'il a commis. Selon son avocat, il va demander pardon à ses compatriotes pour avoir participé à la destruction des mausolées, patrimoine mondial de l'humanité. En 2012, pendant l'occupation du Nord malien par les djihadistes, au nom de la lutte contre l'idolâtrie, il avait détruit ou fait détruire à coups de pioche pas moins de 14 mausolées de saints musulmans de Tombouctou. Cela avait provoqué l'indignation à travers le monde. Les juges prononceront leur verdict autour de début juillet, à la fin du Ramadan. La défense et l'accusation estiment néanmoins avoir besoin de temps pour se préparer et visent le 25 août.
La lutte contre la corruption au Burkina Faso. Les autorités burkinabées demandent à plusieurs membres du gouvernement de transition mis en place après la chute du président Blaise Compaoré de rendre les véhicules, pour la plupart de luxe, ayant disparu du parc automobile de la présidence. Un communiqué du ministre de la Sécurité intérieure, Simon Compaoré, précise qu'à la faveur de la fin de la transition le 29 décembre 2015, un certain nombre de véhicules ont été sortis du parc automobile présidentiel sans autorisation. D'où la requête ordonnant à toute personne ou structure détenant les véhicules en question de les déposer au camp de la Compagnie républicaine de sécurité à Ouagadougou dans les 2 semaines, sous peine de subir les conséquences qui en découlent. Le nouveau président Roch Marc Christian Kabore, rappelons-le, a fait de la lutte contre la corruption une priorité de son mandat. Et puis au Libéria, des enquêteurs spécialisés dans la lutte contre la corruption et aussi des policiers ont perquisitionné aujourd'hui les bureaux du chef du parti au pouvoir, accusé par l'ONG Global Witness de trafic d'influence au profit d'une compagnie minière britannique. Plus de détails avec Jacques Aristide.
Les officiers de la commission anticorruption se sont auparavant rendus au domicile de Varney Sherman, mais n'ont pas pu le perquisitionner. De jeunes militants du parti au pouvoir leur en ont interdit l'accès, d'après Jonathan Kaffa, chef de la commission présidentielle enquêtant sur cette affaire de corruption. Une affaire mise au jour par Global Witness dans un rapport publié le 11 mai dernier. Selon l'ONG, la compagnie Sable Mining a obtenu ou sécurisé des permis au Libéria, de même qu'en Guinée, grâce à des pots de vin. Au Libéria, plusieurs responsables du pouvoir ou leurs proches se seraient partagés près de 960 000 dollars entre 2010 et 2012. L'ONG accuse notamment Varney Sherman, qui était l'avocat de cette compagnie minière, d'y avoir participé. Sherman a reconnu avoir effectué des paiements pour la compagnie, mais a réfuté toute malversation, se disant prêt à coopérer dans cette enquête, mais pas avec la commission mise en place par la présidente libérienne Hélène Johnson-Sirleaf. Sable Mining a également nié toute allégation de corruption.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington.
Crise au Burundi, fait aujourd'hui à Arusha en Tanzanie des premières consultations sur la crise. Le gouvernement Bujumbura a été représenté, mais la session a été boycottée par la plateforme Sénared, la principale coalition de l'opposition en exil. L'ancien président tanzanien William Kappa, facilitateur dans le conflit burundais, va rencontrer au cours des 2 prochaines semaines les protagonistes absents de la session pour poursuivre et achever les consultations. Monsieur Mpaka a écouté tour à tour des représentants du gouvernement, du parti au pouvoir et de ses alliés, de quelques rares membres de l'opposition, ainsi que des représentants de la société civile burundaise, en vue, dit-il, de comprendre le nœud de la crise et de mettre sur pied le calendrier des prochains rendez-vous, la liste des partis participants et les points à discuter. Mais que retenir de ces 4 jours de consultation? La réponse du vice-président du Front démocratique au Burundi, Frédéric Banvo Guignumvira, au micro d'Éric Manirakiza.
Le médiateur a dit qu'il avait l'intention de comprendre l'essence de la crise burundaise pour qu'il puisse y apporter une médication appropriée. Et puis après, il a dit qu'il entend aller rencontrer le président Museveni pour qu'il puisse échanger avec lui sur ce qu'il a compris de cette rencontre. La suite, c'est qu'il va convoquer une autre session avec la troisième semaine du mois de juin. Alors, il nous a demandé, les responsables de nos organisations, pour bien composer les délégations qui participeraient à cette prochaine session. Alors, il a aussi demandé à ce que nous préparions des mémos pour faciliter justement ce dialogue qu'il entend organiser au mois de juin.
Il y a le Sénared qui a boycotté ces consultations parce qu'elle n'était pas invitée en tant que plateforme Sénared. C'est une question levée aujourd'hui.
Bon, c'est vrai. Nous qui étions présents, nous avons plaidé pour que la médiation puisse consulter le Sénared. Et la médiation a promis de la rencontrer dans les tout prochains jours pour que tout le monde puisse être consulté avant cette session du mois de juin. À cette occasion de la prochaine rencontre, on pourra avoir la feuille de route qui doit orienter ces négociations qui viendront d'ici peu.
Est-ce que les négociations vont continuer à se dérouler à Arusha ou seront délocalisées ailleurs, à Bujumbura, tel que le souhaite le gouvernement de Pierre Nkurunziza?
Que ces médiations puissent être délocalisées d'Arusha pour être animées au Burundi, nous avons eu l'occasion de le dire en toute clarté à la médiation que de notre côté, du côté de l'opposition, nous ne sommes pas prêts à accepter d'aller à Bujumbura avant la signature d'un accord qui soit de la mise en application qui devrait être garantie par justement les organisations internationales et la médiation elle-même, sinon ce serait justement se tromper. C'est une illusion, faire croire au monde que il y a moyen d'organiser ce genre de rencontre à Bujumbura. C'est impossible.
Frédéric Manvo Guignoum Vira, vice-président du Front démocratique au Burundi, le FRO, début au micro de Eric Manirakiza. Il était joint à Arusha en Tanzanie. Kenya, au moins 3 civils tués et 29 policiers blessés dans l'ouest du pays lors d'affrontements entre la police et des manifestants de l'opposition réclamant la dissolution de la commission électorale en amont de la présidentielle de l'année prochaine. Les précisions de John Lyndon.
2 personnes ont été tuées par balle à Siaya où les forces anti-émeutes ont tiré sur une foule utilisant les lance-pierres. À Kisumu, une personne est décédée d'une blessure à la tête alors qu'elle fuyait les gaz lacrymogènes. Hier, les leaders de l'opposition ont affirmé que plusieurs de leurs partisans ont été tués en divers endroits du pays sans donner de bilan précis. La coalition d'opposition derrière Raila Odinga et plusieurs organisations de la société civile réclament la dissolution de l'actuelle commission électorale qui avait organisé la présidentielle de 2013, remportée par Uhuru Kenyatta. Le résultat avait été contesté par M. Odinga, qui estime cette fois que cette même commission n'est pas en mesure de garantir l'équité du prochain scrutin présidentiel prévu le 8 août 2017.
L'actualité hors d'Afrique maintenant, intensification de la lutte contre le groupe État islamique EI en Syrie. Les forces démocratiques syriennes, FDS, une coalition arabo-kurde, comptant environ 30 000 combattants, 25 000 Kurdes et 5 000 Arabes, ont lancé une offensive contre l'EI au nord de Raqqa, le quartier général du groupe islamiste. C'est ce qu'a confirmé aujourd'hui un porte-parole militaire américain à Bagdad, le colonel Steve Warren. Washington a déployé près de 300 soldats en Syrie pour former les FDS, notamment pour les aider à diriger depuis le sol les frappes aériennes de la coalition anti-djihadiste dirigée par les États-Unis. Et puis, en Irak, les forces irakiennes resserrent également leur étau autour des positions de l'État islamique à Fallujah, où des civils sont piégés par les combats en cours. Annoncé lundi par le Premier ministre irakien Haider al-Abadi, l'offensive pour la reconquête de cette ville à une cinquantaine de kilomètres seulement à l'ouest de Bagdad a déjà permis la reprise de la localité de Karma, proche de Fallujah. Et pour terminer, le premier sommet humanitaire mondial se termine aujourd'hui à Istanbul, en Turquie. Dans le cadre du grand marchandage à la Réunion, des donateurs, dont plusieurs gouvernements, se sont engagés à réduire les formalités qu'ils exigent des organisations humanitaires, lesquelles ont promis en contrepartie d'alléger leur bureaucratie pour rendre plus efficace leur action. En facilitant l'arrivée des ressources sur le terrain, le grand marchandage peut favoriser des ONG plus modestes et locales, souvent en première ligne des crises humanitaires, ce qui devrait permettre de soulager les grosses agences humanitaires des Nations Nations Unies. C'est ce qu'a souligné la commissaire européenne chargée du budget et des ressources humaines, Kristalina Georgieva. Merci de votre attention. Bonne soirée.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.